Alors je vais lire ce matin dans Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, même s'il n'y en a pas beaucoup avec la neige, pensez en été. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ? » « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est dans les cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Bonjour à chacun, à chacune. À mon tour de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que la grâce de notre Seigneur vous accompagne tout au long de cette année, qu'il puisse illuminer votre route et que ce temps, cette année, puisse être une année heureuse, une année remplie de joie, quelles que soient les circonstances que vous traversez les uns et les autres. Bonheur, joie, c'est un petit peu ce que nous avons partagé dimanche passé, puisque nous avons médité ensemble les béatitudes, ces paroles magnifiques du Seigneur qui ouvre son sermon sur la montagne. Et nous avons vu ensemble, de manière un peu paradoxale d'ailleurs, combien ce bonheur n'était pas tellement celui qui est inné pour nous. Nous avions vu effectivement que le fait de manquer de quelque chose était une dimension du bonheur. Et que Dieu désirait venir combler ce qui nous manque lui-même en nous donnant par un don. Et c'est cela qui fait ce bonheur. Dieu lui-même vient nous combler. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Voilà ce don extraordinaire. Le royaume lui-même, un royaume à venir, bien sûr, mais dont nous pouvons déjà goûter quelque chose aujourd'hui. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, affirme Jésus. Et pourtant, dans la suite de son sermon, nous venons de l'entendre, Jésus dira aussi « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. » Alors ce royaume, est-ce qu'on l'a déjà ou est-ce qu'il faut encore le rechercher? Est-ce que Jésus se contredirait dans son propre sermon? Alors non, bien sûr, Jésus ne se contredit pas. Mais c'est vrai qu'il en est du royaume comme de toute vérité spirituelle. Ces vérités sont bien réelles, hein, mais il faut les saisir par la foi. Le royaume de Dieu est bel et bien donné à ceux qui se savent pauvres devant Dieu, à ceux qui s'attendent à lui, mais faut-il encore y croire à ce royaume? Faut-il encore le rechercher? Faut-il encore le saisir par la foi? Il faut se l'approprier. Il faut que ce royaume devienne notre réalité et que notre attitude, notre comportement soit comme si nous étions effectivement dans ce royaume. Rechercher le royaume de Dieu. Ce n'est pas se demander s'il existe bel et bien, ce n'est pas se demander si un jour nous le verrons. Rechercher le royaume de Dieu, c'est chercher quotidiennement à faire de ce royaume ma réalité sur cette terre, même si cette réalité spirituelle demeure étrangère à la majorité des gens qui nous côtoient. Et Jésus attend de ses disciples une attitude, un comportement qui reflète leur appartenance à ce royaume des cieux. Ce qui, dans le passage que nous venons de lire, consiste en deux choses, à ne pas s'angoisser inutilement, à ne pas s'inquiéter pour tout, mais à faire confiance à Dieu, à avoir foi. Et c'est vrai que dans ce passage, Jésus met l'accent sur la puissance, la souveraineté de Dieu, qui peut tout, qui voit tout, qui sait tout. Et cette souveraineté de Dieu ici et maintenant implique notre obéissance à ses instructions. Jésus exige de ses disciples un engagement à chercher, à trouver et à faire la volonté de Dieu, à coopérer sans réserve avec son plan divin. Et cet engagement, eh bien, doit venir en premier. Cet engagement ne doit pas être étouffé par des préoccupations matérielles, s'inquiéter du vêtement, du boire et du manger, c'est un facteur de distraction. Et puis surtout, c'est un souci inutile, parce que, comme le dit si bien notre texte, qu'est-ce qui peut changer, ou que peut changer nos inquiétudes? Par contre, si nous donnons la priorité à Dieu, affirme Jésus, tous nos besoins matériels seront satisfaits. Tous nos besoins matériels. C'est une promesse, et en même temps, il est important de souligner ici un autre aspect, bien sûr, de la parole de Dieu, qui ne prescrit pas un optimisme béat et sans souci. Jésus, à aucun moment donné, ne nous fait miroiter une vie sans difficulté. Et puis ces versets n'enseignent pas davantage le mépris du corps et le mépris de nos besoins. Mais ils appellent plutôt les disciples simplement à poursuivre le but premier, celui de rechercher Dieu et son royaume, sans se laisser distraire par des préoccupations moins importantes, quoique, bien sûr, tout à fait légitimes. Mais si le disciple consent à donner à toutes ces choses leur juste place, Dieu promet de s'occuper du reste. Alors, mes amis, il nous faut apprendre à mettre des priorités. Il nous faut apprendre à faire les bons choix. Et cela tombe bien parce que nous voilà au seuil d'une nouvelle année et c'est traditionnellement l'occasion pour prendre des bonnes résolutions. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait votre liste de bonnes résolutions pour ce début d'année. Mais voilà quelque chose, ou en tout cas un passage qui peut nous y encourager. Et pourtant, si le fait de faire des bons choix est important, surtout si nous voulons grandir spirituellement, il y a cependant une erreur fréquente dont il nous faut absolument nous garder, et c'est de cela que j'aimerais vous parler maintenant. Certains disent effectivement que pour se sortir de nos ennuis, se sortir de nos difficultés, il suffit de comprendre quels sont les bons choix, sous-entendu que nous n'avons pas fait jusqu'à présent, ces bons choix qu'il nous faudrait maintenant à prendre, décider et appliquer. Pour ces gens-là, la seule chose qui compte, c'est de savoir ce qui est bien et de le mettre en pratique. La connaissance et la volonté sont les deux outils fondamentaux de la croissance spirituelle. Les choix justes deviennent la cause de notre développement spirituel. Et c'est vrai qu'il y a derrière ce raisonnement, derrière cette façon de présenter les choses, quelque chose de biblique. La Bible nous encourage à faire des choix. Elle se prononce beaucoup sur la question des choix. Je donne simplement un exemple avec Josué, qui encouragera les Israélites à choisir. Il dira ceci, « Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, verset 15. Alors, loin de moi, l'idée de contester le bien fondé de cette initiative de Josué qui encourage le peuple à faire des choix. Nous devons effectivement choisir qui nous voulons servir. Et ce choix a, nous dit la Bible, des répercussions éternelles. Seulement, la vie spirituelle n'est pas aussi simple que cela. La croissance spirituelle ne s'arrête pas le jour où nous choisissons Dieu, le jour où nous avons donné notre vie à Dieu. En effet, parce que nous pouvons nous décider pour Dieu et en même temps, nous pouvons saboter ce choix. Comment ? En faisant exactement le contraire de ce qu'implique notre engagement. Et malheureusement, cela se produit assez fréquemment dans notre vie de tous les jours. Vous décidez de faire un régime et 3 mois plus tard, vous vous retrouvez avec 10 kilos en plus. Enfin, voilà, ça c'est pas mon cas, mais ça peut arriver. Vous choisissez d'être calme et tout d'un coup, vous vous mettez en rage folle parce que votre épouse a donné aux invités l'énigme de votre devinette. Ou bien vous prenez l'engagement de mettre de côté du temps pour la prière et vous vous énervez parce que vous n'arrivez pas à vous lever un petit peu plus tôt le matin. Et je pourrais multiplier les exemples. Sur certaines mises en garde contre la drogue, on a pu lire « Dites tout simplement non ». Les auteurs de cette devise estiment qu'il suffit de dire non à la drogue pour résoudre tous les problèmes. Et d'autres gens, bien sûr, ont tenu ce même discours, ce même genre de raisonnement pour d'autres domaines. La colère, la convoitise, la dépression ou d'autres dépendances. Mais ce principe de dire tout simplement non n'est tout simplement pas efficace. Parce qu'il s'appuie sur la seule force de notre volonté. Or, nous savons ce que c'est. Que la force de notre volonté. La doctrine de cette force de la volonté est une doctrine humaine et non pas une doctrine biblique. La volonté, tout simplement, ne suffit pas. Animés des meilleures intentions du monde, nous choisissons de faire telle ou telle chose par un effort de volonté, et en fait, il nous arrive de faire exactement le contraire. Au lieu de dire tout simplement non, nous faisons cette expérience que l'apôtre Paul lui-même a faite et qu'il nous partage dans son épître aux Romains. Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, c'est ce que je fais. Malheur à moi. Et vous connaissez la suite. L'expérience de Paul et la nôtre nous révèle notre inaptitude à simplement dire non. Et pourquoi est-ce si difficile ? Parce que notre pensée, notre âme et notre cœur sont souvent en conflit l'un avec l'autre, dans un conflit intérieur dont souvent nous ne voulons pas nous occuper. Nous sommes capables de savoir ce qui est bien, quelles sont nos vraies valeurs, mais dans notre cœur, sont enfouis au plus profond des attirances pour des choses et des personnes qui sont et qui ne correspondent pas du tout à ces valeurs que nous prônons, ou se logent encore des souffrances qui nous pousse à réagir d'une toute autre manière que ce que nous voudrions faire. Je prendrai ici un exemple, celui de Stanislas, un exemple tiré d'une lecture qui m'a aidé dans cette méditation. Stanislas avait du mal à obéir à son patron. Il voulait s'acquitter correctement de son travail, mais il s'y prenait de telle façon qu'il réduisait inévitablement à néant tous ses efforts. Il avait eu plusieurs entretiens avec son chef, au cours desquels ensemble ils ont examiné quels objectifs Stanislas devait obtenir. Et au début, celui-ci essayait de les atteindre, parce qu'il était bien payé pour obtenir ses résultats. Mais petit à petit, après ces premières entrevues, il commença à remettre à plus tard certains travaux. Il commença à ne pas honorer certains engagements. Bref, il ne fit pas tout le travail qui lui était demandé. « J'ignore pourquoi j'agis de la sorte », dira-t-il à son pasteur. « J'ai vraiment le désir d'accomplir le travail qui m'est confié. Je suppose que je dois procéder à de meilleurs choix dans ma vie, prendre des décisions qui doivent me permettre d'accomplir ce que je me dois de faire. » Mais son pasteur avait discerné autre chose, et voici la remarque qu'il lui fit. « Mais quel meilleur choix voulez-vous faire, Stanislas ? Vous avez au fond de vous le souci de sentir que vous exercez le plein contrôle sur vous-même. Personne ne doit avoir autorité sur vous. Or, dans l'exercice de votre profession, vous vous sentez soumis à votre patron, et cela vous pèse. C'est pourquoi vous résistez inconsciemment à ce qu'il vous commande, de sorte que vous vous sentez maître de votre destin, même si cela provoque des ennuis. Autrement dit, la bonne volonté de Stanislas était simplement réduite à néant par les aspirations secrètes de son cœur, celles de résister à toute autorité. Et c'est bien pourquoi la Bible nous exhorte non seulement à faire de bons choix, mais surtout à changer de l'intérieur. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits, dira Jésus dans son sermon sur la montagne. Un mauvais arbre a beau déployer tous ses efforts pour porter du bon fruit, il n'y arrivera jamais. Et c'est ce qui arrive aussi aux chrétiens qui essayent de choisir des bons fruits, mais qui n'ont pas mis en lumière les mauvais côtés de leur cœur. Oui, Jésus a énoncé un principe bien meilleur que celui qui consiste à tout simplement dire non ou à faire les bons choix. Il préconise un changement radical du caractère de l'être humain. L'homme bon tire du bien de son bon trésor et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, dira Jésus. On voit bien que c'est notre caractère intérieur qui dicte ce que nous finissons par choisir. Et si nous conservons dans notre cœur des problèmes non résolus, tous les efforts du monde ne serviront à rien pour nous faire porter de bons fruits. Nous devons au préalable prendre à bras le corps le mal qui s'est logé au-dedans de nous et qui inspire nos choix. Nous devons prendre le temps, nous devons faire l'effort d'un cheminement intérieur, souvent douloureux, pour découvrir nos zones d'ombre et y faire face. Pour reprendre mon exemple, Stanislas a dû résolument faire face aux motivations contradictoires qui tiraillaient son cœur. Il fut amené à confesser sa haine envers son père et envers les autres représentants de l'autorité. Il leur pardonna, il admit aussi son propre péché de rébellion et il trouva des chrétiens qui, par leurs paroles, par leur attitude valorisante, remplirent son cœur, ou plutôt le vide de son cœur que son père n'avait jamais comblé. Et enfin, il dut apprendre à gérer sa tristesse concernant ce qu'il avait toujours désiré recevoir de son père et ce qu'il n'avait jamais obtenu de sa part. Tout un cheminement qui fut long, pas facile, mais qui lui a amené à cette liberté. Et nous le voyons bien, faire les bons choix est une condition nécessaire mais insuffisante de notre croissance spirituelle. Non seulement il nous faut choisir le bien, mais il nous faut encore trouver la force de le faire, le désir profond de l'accomplir et lutter efficacement contre tout le mal qui veut nous empêcher de le faire. Et pour cela, nous devons confesser les parties les plus noires de notre cœur, apprendre à compter sur l'Esprit Saint pour qu'il mette en lumière ce qui en nous peut contrecarrer notre croissance spirituelle. Et nous devons encore creuser en profondeur autour de ces racines de notre arbre intérieur pour ôter tout ce qui veut et vient freiner cette croissance. Et de cette façon, nous pourrons répondre de mieux en mieux, toujours plus, à ce premier commandement de l'Écriture. Vous le connaissez, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, mais pas seulement, de toute ton cœur et de toute ton âme. Hein ? Il n'y a pas que la seule volonté qui soit concernée, mais bien tout notre être. Et c'est pour ça qu'envisager un acte de volonté déconnecté de notre cœur, d'un cœur pur qui désire la même chose que Dieu, c'est tout simplement pas biblique. Dieu souhaite que nous désirions, que nous voulions la même chose que lui. Car comme il nous a été dit à l'introduction de ce culte, Dieu est ce Père céleste qui désire le meilleur pour ses enfants. Et surtout face à nos difficultés, Dieu ne nous délaisse pas. Mais il veut lui-même combler nos besoins, ces besoins qui sont souvent à l'origine de nos attitudes, de nos comportements inappropriés, inadéquats. Dieu ne nous demande pas de renoncer à quelque chose sans vouloir nous combler ou nous donner quelque chose d'autre, mais quelque chose de bien meilleur. Or, si nous sommes incapables de désirer ce que Dieu désire, enfin, nous le sommes tant que nous n'avons pas changé notre cœur. Oh, nous, seul Christ le peut. Et c'est bien en exposant notre cœur, nos désirs, bons ou mauvais, à Dieu, voire aussi aux membres du corps du Christ qui peuvent nous aider à cheminer, si nous exposons tout cela à Dieu, eh bien, nous constatons que petit à petit, Dieu travaille au dedans de nous, que ses désirs, bons mais surtout mauvais aussi, sont transformés par la confession, par la repentance, ça c'est notre part, mais aussi par la grâce restauratrice de Dieu, et ça c'est sa part dans nos cœurs. En recevant de Dieu, nous découvrons que notre âme commence à désirer ce que Dieu désire et à vouloir ce que Dieu veut. Alors là, le bon choix ne consiste plus alors entre ce que nous voulons et ce que nous nous obligeons à vouloir, mais le bon choix résulte du fait que nous désirons ce que nous voulons. Et pour conclure, j'aimerais encore évoquer cette parole de l'apôtre Paul qui dit ceci aux Philippiens, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Mais dans un même souffle, il va poursuivre sa pensée en disant, « C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. » Et c'est bien ces deux réalités, mises côte à côte par l'apôtre Paul, qui vont interagir pour transformer nos cœurs et nous mettre en phase avec le projet bienveillant de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, au seuil de cette nouvelle année, j'aimerais vous laisser cet encouragement. Au lieu de redoubler d'efforts pour arriver à faire les bons choix, arriver au bout de notre liste de bonnes résolutions, apprenons plutôt à confier à Dieu notre incapacité. Apprenons à confier à Dieu nos désirs et allez nous laisser nous transformer. Devenons humbles. Ne croyons pas que nous sommes plus forts que ce que nous sommes réellement. Demandons à Dieu son secours. Demandons à Dieu de commencer en nous ce travail spirituel, ce processus de la croissance spirituelle. Demandons à Dieu qu'il mette en nous, nous l'avons chanté, cette flamme, ce désir bouillonnant de vouloir ce qu'il veut, de désirer ce qu'il désire. Et si nous nous engageons de notre côté à entrer dans ce dur labeur, c'est vrai, du développement spirituel, eh bien Dieu de son côté va honorer cette demande et va commencer à reproduire sa vie en nous changeant dans l'intérieur. Mes amis, acceptons qu'il nous taille, qu'il nous émonde, qu'il nous façonne, qu'il façonne notre cœur, notre caractère, alors nous porterons du fruit en notre saison. Encore à chacun et à chacune, tous mes vœux pour cette nouvelle année dans la grâce du Seigneur. Et je vous invite à terminer par une prière avant que nous chantions un chant qui nous introduira dans la Sainte Cène, ce temps d'alliance avec Dieu. Une prière de Saint Augustin d'Hippone, que je trouve belle et que j'aimerais vous laisser, que nous puissions la faire nôtre, chacun, chacune. Elle a pour titre « C'est toi seul que j'aime ». Prions. Désormais, mon Dieu, c'est toi seul que j'aime. C'est à toi seul que je m'attache. C'est toi seul que je suis prêt à servir. Parce que toi seul as le droit d'être mon maître. Je veux t'appartenir. Ordonne ce que tu voudras, mais guéris et ouvre mes oreilles, afin que j'entende tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux, afin que je voie ta volonté. Je ne te demande qu'une chose, ô mon Dieu, c'est que ton grand amour me convertisse entièrement à toi et que rien ne m'entraîne loin de toi. Rends mon cœur pur et généreux, juste et droit, que je marche vers la perfection de l'amour et la possession de ta sagesse, que par ta grâce, je sois digne d'habiter un jour ton royaume de paix. Amen.